La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent Nouveau regard sur notre histoire, une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec notre histoire et nos racines sur les ondes de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Lebel. Ce soir, il sera question d'un seul sujet, mais qui sera sûrement capté votre intérêt. L'idée de République au Québec. Et contrairement à l'habitude, deux invités viendront, non pas l'un à la suite de l'autre, mais en alternance, traiter de ce grand sujet sous des angles différents. Ces invités, les voici. Il s'agit tout d'abord de l'auteur Danick Parenteau, qui vient de faire paraître chez Fides l'ouvrage « Précis républicain à l'usage des Québécois ». Et de Marc Chevrier, juriste et professeur en sciences politiques, que nous recevions la semaine dernière et qui a fait paraître en 2012 chez Boréal, « La République québécoise, hommage à une idée suspecte », un ouvrage pour lequel il s'est vu décerner le prix Richard Arès. Bonne émission. Comme nous le précisions en ouverture, l'émission de ce soir portera sur un seul sujet, celui de l'idée de République au Québec. Pour ce faire, deux invités viendront, non pas l'un à la suite de l'autre, mais en alternance, traiter de ce grand sujet sous des angles différents. Il s'agit tout d'abord de l'auteur Danick Parenteau, qui vient de faire paraître chez Fides l'ouvrage « Précis républicain à l'usage des Québécois ». Danick Parenteau est professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean. Il est détenteur de doctorat de l'Université Paris 1 Sorbonne. Il a publié avec Charles-Philippe Courtois en 2011 une anthologie des 50 discours qui ont marqué le Québec et une étude en 2008 sur les idéologies politiques et particulièrement sur le clivage gauche-droite. Une étude publiée aux Presses de l'Université du Québec. Il a aussi réalisé des travaux en philosophie et de nombreuses conférences et communications.
Notre invité aujourd'hui, M. Danick Parenteau, s'est illustré en plus de son activité académique universitaire dans les débats de société. Il collabore aux revues Arguments et L'Action nationale, en plus de signer à l'occasion des textes d'opinion dans Le Devoir. Il est un membre actif de la Commission nationale des États généraux sur la souveraineté et membre du comité exécutif du Nouveau mouvement pour le Québec. Intellectuel engagé, les débats actuels sur la laïcité, la citoyenneté ou la souveraineté populaire l'ont incité à produire un précis républicain à l'usage des Québécois. C'est le titre de son ouvrage qu'il vient de faire paraître chez Fides. C'est d'ailleurs cet ouvrage que nous aborderons aujourd'hui. Alors, bonjour Danick.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous, en commençant, nous dire quelques mots de votre implication citoyenne? Votre implication là, comme intellectuel engagé, car votre dernier livre est directement en lien avec des débats de société très d'actualité.
Oui, en fait, en plus de mon travail universitaire de recherche, à titre de professeur au Collège militaire, je milite également au sein de mouvements politiques, implications citoyennes, notamment à titre de membre de la Commission nationale des États généraux, qui a été mise sur pied en 2011. Nous en sommes à la phase 2 de nos travaux, qui vont se terminer bientôt. Également, je siège sur le comité exécutif du Nouveau mouvement pour le Québec, qui est un mouvement citoyen favorable à l'indépendance du Québec, mais qui est non-partisan, qui rassemble des citoyens engagés en faveur de cette option politique, qui réunit donc des gens engagés pour cette cause sans pour autant être militants au sein des trois formations politiques sur la scène québécoise. C'est un peu ça mon engagement, oui.
Alors, quel est l'objectif que vous poursuivez là, avec ce dernier ouvrage, ce précis? Je comprends que ce n'est pas un traité philosophique sur le républicanisme, même si on parle d'idées républicaines.
En fait, ces dernières années, je me suis intéressé à cette question et je dois rendre ici honneur à l'ouvrage de Marc Chevrier, « La République québécoise, une idée suspecte » qui est paru il y a 2 ans. J'observe, et c'est ce que je mets dans cet ouvrage, une certaine pratique républicaine dans les manières de faire des Québécois, dans leur conception de la société, dans leur imaginaire collectif. Donc, une certaine façon qui tranche avec la conception qui plutôt domine au Canada, qui, elle, tient davantage au libéralisme anglo-saxon. Donc, c'est les deux modèles que j'oppose ici dans cet ouvrage, entre une conception républicaine de la société et une conception libérale anglo-saxon.
En fait, vous parlez d'idées républicaines, mais au Québec, les historiens, se sont peu intéressés aux républicains ou à la pensée républicaine, ce qu'on pourrait dire les ennemis de la monarchie, si on veut faire court.
Ouais.
Alors, il y a comme un nouvel intérêt pour l'approche républicaine. Je pense, vous avez signalé tantôt les travaux de Marc Chevrier, mais il y a aussi les travaux d'Yvan Lamonde, Louis-Georges Harvey, Stéphane Kelly.
Ouais.
Alors, c'est récent, cet intérêt pour les idées républicaines. Je pense, entre autres, aussi à l'anthologie qui a été publiée en 2013 sur des thèmes républicains.
Ben oui.
Moi, juste comme ça, si vous me permettez de les signaler, l'idéal émancipateur de la République, la lutte contre la corruption et le pouvoir de l'argent, c'est des thèmes qu'on retrouve chez les républicains. La lutte contre la domination coloniale et aussi la lutte, ou plutôt les efforts pour une véritable éducation à la vie civique, une espèce d'instruction du citoyen. Alors, tous ces thèmes-là, on a commencé à en parler au cours des dernières années. Comment vous expliquez ce regain-là, tout récent?
Je ne saurais expliquer pourquoi on assiste à un tel regain récemment, mais il est bien visible toutefois. Est-ce dû à une certaine forme de déclin du souverainisme, de la doctrine souverainiste? Peut-être. Est-ce en quelque sorte une réaction à une réaffirmation du caractère bien monarchique, très traditionnel, patrimonial du Canada avec le gouvernement Harper? Probablement également. Mais on doit également aussi souligner la découverte ou la redécouverte de cette riche tradition de pensée qui a pourtant habité notre histoire et qu'on a vu donc dans l'anthologie que signent Marc Chevrier et ses collaborateurs.
Mais vous, c'est moins les idées républicaines. Vous dites qu'il y a une approche républicaine, une pratique bien enracinée. Alors, en quoi il y aurait une approche républicaine au Québec? Par exemple, sur les questions comme la laïcité, la question de la citoyenneté, vous parlez aussi du rôle de l'État dans la promotion de l'identité nationale. Alors, ça serait quoi cette pratique bien enracinée?
Quand on observe la manière dont les Québécois ont de réagir à certains enjeux politiques bien contemporains, on remarque une réaction qui se distingue de ce qu'on retrouve au Canada. Et je vais me servir d'un seul exemple, et par la suite, on pourra élaborer sur d'autres aspects de cette dimension de républicanisme. Mais en dépit d'efforts considérables déployés par le régime canadien depuis les années 70 pour vendre, j'emploie ici l'expression « vendre » à Essien, le modèle du multiculturalisme, qui est un modèle d'intégration et de gestion de la diversité ethnoculturelle parmi d'autres. Les États-Unis ont le melting pot, les pays européens comme la France ont le républicanisme. Donc, en dépit de tous ces efforts déployés, il se trouve que les Québécois restent encore très réticents à adopter ce modèle. Pourquoi? Ben parce que je pense qu'ils partagent, les Québécois, sans même l'assumer pleinement, une forme de conception du monde, de conception de la société qui est républicaine. Donc, on a là, ici, avec cet exemple-là, une pratique qui perdure chez les Québécois sans pour autant qu'elle soit parfaitement assumée puisque les Québécois n'en ont pas parfaitement conscience. Ce qui explique en partie également, je pense, le caractère plus chaud qu'ont pu prendre les débats touchant les questions d'accommodement raisonnable ces dernières années au Québec, alors qu'au Canada, ces questions-là font largement consensus. Pourquoi? Parce que le multiculturalisme canadien, qui sied mieux à la société canadienne, a réussi à s'imposer dans les pratiques et dans l'imaginaire collectif canadien. On trouve au Canada encore des gens qui sont très, très, très critiques à l'endroit du multiculturalisme. Mais en général, la classe politique, la classe médiatique, la classe intellectuelle et la population canadienne en général sont davantage multiculturalistes que les Québécois.
Donc, si je comprends bien, il n'y a pas juste deux régimes politiques, la monarchie et la République. Vous, ça va bien au-delà. Et c'est pas seulement l'opposition entre les deux conceptions de l'homme dans la cité qu'on pourrait dire le libéralisme et le républicanisme. Seriez-vous d'accord un peu avec cette opposition-là, républicanisme et libéralisme?
Oui. Mais en fait, sur le plan des régimes politiques, on oppose habituellement, effectivement, le régime monarchique, qui est le cas du Canada, au régime républicain. Essentiellement, en fonction du fait que le chef de l'État, le président dans le régime républicain, est élu au suffrage universel par le peuple directement, ce qui est bien sûr pas le cas avec la monarchie canadienne, où à la tête de l'État, on trouve une reine, évidemment non élue, qui est en plus une reine étrangère. Donc, ça, c'est le plan du régime politique. Mais en dessous du régime, il y a dans la pratique sociale, dans la représentation du peuple, du pouvoir politique, sa place dans le système politique, un rapport à l'autre, un rapport aux institutions. Et là, on oppose habituellement à ce moment-là le libéralisme anglo-saxon et le modèle républicain. Et pour illustrer cela davantage, je dirais par exemple que même si les États-Unis d'Amérique sont, sur le plan du régime, une république, sur le plan de la pratique sociale, ce sont davantage les libéraux anglo-saxons. Donc, en ce sens, les Canadiens sont assez proches des États-Unis, en dépit du fait que leur régime politique n'est pas le même. Au Canada, on a une monarchie, aux États-Unis, une république.
Et au Québec, on a souvent confondu libéral et républicain. Oui. C'est-à-dire que les personnages qui ont été, par exemple, républicains durant une certaine période de leur vie, on les a classés tout simplement dans libéralisme, sans faire cette distinction-là. Mais si vous me permettez, j'aimerais lire un petit extrait ou reprendre quelques idées du livre de Marc Chevrier, où on fait la différence entre le libéral et le républicain. Ça pourra peut-être nous aider à comprendre oui. cette différence-là. Alors, c'est sur la façon d'entrevoir le sens de la liberté. Alors, je cite, « Pour le libéral, la liberté est la faculté de chaque individu d'être lui-même, de penser et d'agir sans subir de pression de la communauté. Sa liberté est tournée vers la vie privée. Elle est un domaine à préserver des atteintes excessives de la collectivité. Et pour sacraliser sa liberté, le libéral adopte le langage des droits. La conception de la liberté du républicain est différente. La liberté ne se réduit pas à la faculté de vouloir et d'agir dans un espace privé. Elle suppose la maîtrise des conditions matérielles et collectives qui rendent possible sa participation dans la vie publique de la cité. La liberté se réalise non contre la loi, mais grâce à la loi par laquelle il accède à la dignité de citoyen. » Alors, ça décrit rapidement la différence entre le libéral et le républicain. Le libéral, en fait, voit d'un bon œil que la politique appartienne à une minorité professionnelle élue, alors que le républicain lui accepte qu'il y ait des élus, mais sans toutefois enlever au peuple son droit de regard permanent dans les choix publics. Donc, c'est mettre l'accent sur la souveraineté du peuple. Vous seriez d'accord avec cette définition?
C'est très, très juste. Pour dire encore plus simplement, dans le modèle libéral, on a une conception davantage négative de la liberté, souvent la distinction entre liberté négative et liberté positive. Dans ce sens-ci, la liberté est conçue davantage comme l'absence de contraintes. On est libre dans la mesure où précisément l'État nous autorise à pouvoir vivre notre vie telle qu'on souhaite qu'elle soit. Donc, l'importance des droits qui précisément viennent consacrer ce caractère bien particulier de la liberté, alors que dans le régime républicain, on souscrit davantage à une conception positive de la liberté, être capable d'exercer cette liberté, ce qui suppose précisément des institutions qui permettent l'exercice d'une telle liberté dans sa dimension très collective et non pas exclusivement individuelle. Donc, liberté individuelle est négative pour le libéralisme anglo-saxon et davantage pour le républicanisme collective et positive. Ce sont des simplifications, là, mais pour les besoins de la distinction, je pense que c'est assez juste.
Lors de cette première portion de l'entrevue, Robert Comeau et Danick Paranteau ont fait allusion à Marc Chevrier. Et il s'agit justement de notre deuxième invité ce soir. Marc Chevrier, que nous recevions la semaine dernière, est juriste et professeur en sciences politiques. Il a fait paraître en 2012 chez Boréal « La République québécoise, hommage à une idée suspecte », un ouvrage pour lequel il s'est vu décerner le prix Richard Arès. Il a aussi fait connaître en 2013 avec Louis-Georges Harvey, Stéphane Kelly et Samuel Trudeau les textes de la tradition républicaine dans un ouvrage qui a pour titre « De la République en Amérique française, une anthologie pédagogique des discours républicains au Québec de 1703 à 1967 ».
Quand on regarde les ouvrages portant sur l'histoire des idéologies au Québec, on a tendance à placer les républicains sous l'étiquette libéralisme. On n'a pas fait la distinction entre le libéralisme et le républicanisme. Est-ce que vous pouvez clarifier un peu ces deux termes?
Oui, évidemment, ce thème-là est surtout développé dans l'anthologie, dans les deux textes introductifs. Il apparaît aussi plus en filigrane dans mon livre, La République québécoise. C'est un autre constat que nous avons fait, parce que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Stéphane Kelly, Louis-Georges Harvey, Samuel Trudeau et moi, donc, avons réfléchi là-dessus. Et nous avons constaté que dans l'historiographie québécoise, lorsque nous parlons des idées politiques, on parle du libéralisme comme quelque chose de totalement évident, unifié, qui serait, bon, toujours associé au Parti du progrès, des avancées dans l'histoire, de la démocratie, etc. Sans qu'on s'interroge sur sa provenance, sur ce qui vraiment le caractérise comme langage ou grammaire politique. Et on a aussi oublié, selon moi, le fait que le libéralisme qui s'est exprimé ici, c'est un libéralisme très particulier, qui est un libéralisme à l'anglaise, ce que j'appelle le whiggisme.
La pensée whig.
La pensée whig. Donc, il y a différentes formes de whiggisme dans l'histoire anglaise et américaine. Gordon Wood, un grand historien des idées aux États-Unis, va expliquer, par exemple, la naissance de la pensée révolutionnaire américaine par une forme de whiggisme radical. Mais le whiggisme dont nous avons hérité au Canada, c'est plutôt un whiggisme conservateur qui va migrer chez nous vers le 19e siècle et qui va justement se définir en opposition au projet américain et en exaltant les traits les plus traditionnels et conservateurs de l'État britannique. Et c'est ça dont nous avons hérité.
Un libéralisme conservateur.
Ah, oui, c'est ça. Si vous aimez cette expression-là, ce n'est pas un libéralisme radical, c'est un libéralisme justement conservateur. Par exemple, un des grands chefs Tory, Benjamin Disraeli, a écrit sur le whiggisme, qui est son idéologie et qui a été pendant longtemps la plateforme du Parti conservateur au 19e siècle. Donc, évidemment, il y a des nuances qu'on peut faire parce que le monde anglais est complexe et tout. Il était lui-même partagé. Mais ce dont nous avons hérité, selon moi, c'est ce type de libéralisme et aussi un libéralisme à l'écossaise. Il ne faut pas oublier une chose très importante dans notre histoire. Les Britanniques qui ont immigré ici, une grande partie étaient des Écossais. Et pas n'importe lesquels. Les Écossais d'après l'Acte d'Union de 1707. Donc, toute une génération d'Écossais qui ont accepté le fait que l'Écosse ait renoncé à sa souveraineté. Des Écossais qui croyaient que finalement, la liberté, elle existe dans le commerce.
Et dans la collaboration.
Dans la société civile. Et évidemment, la collaboration avec les projets de l'Empire, puisque justement, les Écossais ont fourni à l'Empire de vaillants soldats et de grands commerçants, ainsi que beaucoup de gouverneurs, notamment chez nous. Et ça, c'est un fait qu'on oublie. Donc, le libéralisme dont nous avons hérité, il est conservateur, il est très écossais à bien des égards. Et cet aspect-là des choses ressort très, très peu dans les analyses historiques. Et il m'a toujours semblé un peu absurde, quand je lisais ça dans plusieurs livres, qu'on dise, par exemple, que les patriotes de Papineau étaient des libéraux. Parce qu'en fait, ceux qui étaient contre eux étaient aussi des libéraux. Alors, comment expliquer que des libéraux se chamaillent dans une assemblée? Ils en viennent même à faire une rébellion si effectivement ils partagent tous une chose aussi centrale que le libéralisme. Et ça, j'ai jamais compris comment les historiens ont pu présenter une telle chose. Ou alors, certains vont dire, mais à mon avis, ils se trompent, c'est voilà, les patriotes, c'est des conservateurs parce qu'ils sont attachés à une société agraire. Bon, effectivement, ce genre d'analyse, une analyse qui est encore vivante, je constate, sur la plume de certains auteurs encore aujourd'hui.
Donc, le républicanisme, ce n'est pas une variante du libéralisme, c'est vraiment à l'opposé.
C'est-à-dire, bon, dans l'anthologie, nous les opposons, nous les distinguons, mais bon, dans les faits, ils peuvent se mêler, ils peuvent même se mêler dans une même personne, et on constate que dans notre histoire, beaucoup de personnages ont d'abord été républicains, souvent dans leur jeunesse, Wilfrid Laurier, Georges-Étienne Cartier et d'autres. Et en vieillissant, ben là, ils vont se mettre du côté du libéralisme à l'anglaise.
Une donnée importante, je pense, du républicanisme, c'est la lutte contre la domination coloniale. Et de ce point de vue-là, Papineau, par cet aspect-là, serait républicain, entre autres.
Oui, ben en fait, là, vous m'amenez sur le terrain, parce que je n'ai finalement pas tout à fait répondu à votre question. Qu'est-ce qui distingue les deux? Ben, quelques éléments de distinction. Effectivement, il y a plusieurs choses qui les distinguent, les républicains... qu'on peut aussi nommer autrement, il y a des historiens qui vont parler d'humanisme civique, donc il peut y avoir plusieurs appellations. D'abord, je dirais qu'ils se distinguent des libéraux par la définition même de ce qu'est la liberté. Les libéraux, généralement, mettent en avant le fait que la liberté est une chose privée, c'est un droit de non-interférence, c'est le droit de ne pas être embêté par l'État, par la contrainte collective. Donc, on dit, comme disent les philosophes, c'est une liberté négative, c'est-à-dire... être protégé des atteintes de l'État. Au fond, on est vraiment libre quand il y a le moins d'État possible. La vision républicaine, c'est au fond, la liberté, c'est un pouvoir d'agir sur le collectif, sur la base de l'égalité entre citoyens. Et ça suppose, dans la tradition républicaine, l'idée d'une liberté comme non-domination. Donc, à la fois être protégé de la domination publique, il y a deux formes de domination publique, c'est-à-dire être dominé par les gouvernants qui abusent de leurs prérogatives, et le fait qu'une collectivité soit dominée par une autre. C'est une autre forme de domination, d'où le thème de la domination coloniale. Et par ailleurs, il y a une autre forme de domination qui est la domination privée, par l'argent. C'est-à-dire que la concentration des fortunes due au capitalisme ou à d'autres formes d'accumulation peut créer de telles inégalités que, dans les faits, certains citoyens sont dominés par quelques-uns. Donc, ça, c'est le deuxième aspect.
Les républicains dénoncent beaucoup la corruption hein, dans leur discours.
Tout à fait. Et en fait, leur corruption, il faut s'entendre, c'est pas simplement le fait que des personnes utilisent des manières douteuses pour obtenir un avantage ou pour contourner les lois. C'est plus que ça dans la tradition républicaine. Au fond, la corruption, c'est le fait de renoncer à sa liberté en échange de faveurs. C'est pour cette raison-là, et par exemple, un des grands thèmes de la corruption sera développé en Angleterre même. Un historien des idées de l'école de Cambridge, comme Pocock, va très bien documenter la chose. Dans l'Angleterre du 17e siècle, on voit très bien un conflit se développer entre les tenants d'une couronne puissante qui a les moyens, entre guillemets, de se concilier les faveurs des parlementaires en leur donnant des prébendes, des faveurs, des honneurs, des salaires, etc. Et puis de l'autre, ceux qui défendent l'idée de l'indépendance des députés contre les manigances du pouvoir exécutif. Et ça va marquer à la fois le langage des patriotes américains, mais ça va migrer également chez les patriotes du Bas-Canada.
Mon enfant, tu voudrais comprendre ce qu'on entend par citoyen. Les libres n'ont rien à t'apprendre, ferme-les s'ils ne disent rien.
Vois travailler sous ma fenêtre ce charron, regarde-le bien.
Il ne connaît que Dieu pour maître, voilà mon fils, un citoyen.
Il ne connaît que Dieu pour maître, voilà mon fils, un citoyen.
Vieux débris de la vieille armée, il vit tomber nos défenseurs. Il pleura la gloire éclipsée en espérant des jours meilleurs.
Soudain la liberté l'appelle, le canon grandit les soldats.
Il fait plus que mourir pour elle, il conduit ses fils au combat.
Il fait plus que mourir pour elle, il conduit ses fils au combat.
Enfant, dit-il, c'est la patrie qui dans nos mains remet son sort. On t'a qui ménage sa vie, et enfant, la victoire ou la mort.
Des larmes sillonnaient sa joue, il combattait couvert de sang.
Il foulait aux pieds dans la boue l'étendard brisé du tyran.
Il foulait aux pieds dans la boue l'étendard brisé du tyran. Il revint après la victoire travailler avec ses enfants. Que de noms inscrits dans l'histoire ne valent pas ces pauvres gens. Comme une sœur que la patrie, la gloire est tout. L'argent n'est rien.
Pour qui s'est honoré sa vie par les vertus du citoyen.
Pour qui s'est honoré sa vie par les vertus du citoyen.
Vous écoutez Nouveau regard sur notre histoire sur les ondes de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Lebel. Ce soir, Robert Comeau s'entretient en alternance sur le thème de l'idée de la République au Québec avec l'auteur Danick Parenteau, qui vient de faire paraître chez Fides l'ouvrage « Précis républicain à l'usage des Québécois ». Et Marc Chevrier, juriste et professeur en sciences politiques, qui a fait paraître en 2012 chez Boréal « La République québécoise, hommage à une idée suspecte ».
Alors, abordons le premier volet de votre ouvrage, qui est la laïcité. Et d'ailleurs, on tombe dans l'actualité avec la charte, justement, de la laïcité et des fameuses valeurs. Vous écrivez que la laïcité républicaine et le sécularisme libéral sont les deux principaux modèles d'aménagement du religieux. Pouvez-vous nous décrire un peu ce que vous entendez par ces deux modèles?
Depuis la Renaissance, on assiste en Occident partout à une forme de retrait du religieux de l'espace public, alors que la religion et le pouvoir politique étaient imbriqués l'un dans l'autre, bien sûr en Antiquité où une telle distinction n'existait pas réellement. Au Moyen Âge, où on a vu une compétition entre le domaine religieux et le domaine du pouvoir séculier, les deux modèles donc qui émanent en Occident, ce que je nomme ici le sécularisme libéral et le principe républicain de la laïcité, sont deux modèles qui vont émerger au même moment, qui vont évoluer dans des contextes historiques ou socio-historiques bien distincts. Le premier, le sécularisme libéral, met davantage l'accent sur le principe de la neutralité de l'État en matière religieuse, c'est-à-dire que l'État n'a pas à s'immiscer dans les questions de la foi, mais également, à ce moment-là, les religions doivent se tenir en quelque sorte un peu à l'écart, mais je vais revenir sur le « un peu à l'écart ». Le principe républicain de la laïcité, lui, souscrit davantage au principe d'une séparation nette entre les deux domaines. Donc, l'autre côté, la neutralité de l'État en droit de la religion, l'autre, une séparation nette. Donc, on a deux modèles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Concrètement, si on peut voir ça à l'œuvre, sur la question bien précise, par exemple, des accommodements raisonnables. Le principe des accommodements raisonnables est parfaitement compatible avec le principe du sécularisme libéral. Dans la mesure où, ici, l'État, en octroyant le droit à certains individus de pouvoir se soustraire à l'application de certaines lois, peut encore être très bien conforme au principe de la neutralité religieuse. Alors que le principe de la laïcité, lui, stipule que la religion ne peut être invoquée dans l'espace public par quiconque pour se soustraire à l'application des lois qui, autrement, seraient universelles. Donc, neutralité et séparation nette entre les deux, ce sont deux principes, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, au Canada en général, de même qu'aux États-Unis, on souscrit davantage au principe du sécularisme libéral, alors que les Québécois, depuis, bien sûr, la Révolution tranquille, parce qu'avant, c'est autre chose, mais depuis la Révolution tranquille, depuis le retrait de la religion principalement catholique dans l'espace public québécois, les Québécois, aujourd'hui, se disent « la religion doit demeurer dans le domaine privé ». Point. Donc, c'est ce qui explique, je pense, la réticence assez marquée, assez forte, qu'ont les Québécois en général à l'endroit du principe des accommodements religieux ici. Pas de tous les accommodements raisonnables, mais accommodements religieux, ça, il n'y a pas de doute.
D'ailleurs, la plupart des accommodements avaient un caractère religieux. On a vu ça dans le rapport Bouchard-Taylor.
Oui, oui.
Mais actuellement, au Québec, il y a comme deux conceptions de la laïcité. Une première, je dirais, la laïcité au sens strict, là, que certains appellent républicaine, mais qui est la laïcité point, et la fameuse laïcité dite inclusive ou laïcité ouverte, qui est préconisée par Gérard Bouchard. Alors, on va essayer de comprendre cette opposition-là, mais avant, j'aimerais qu'on entende une présentation qu'a faite Louis Balthazar à Jean Descaries la semaine dernière sur la charte de la laïcité québécoise, et puis on pourra revenir pour commenter cette opinion.
Le débat actuel sur la charte des valeurs a beaucoup divisé, mais il semble aussi avoir donné une certaine longueur d'avance au Parti québécois, en tout cas dans les sondages. L'enjeu identitaire a trouvé, je pense, un écho important dans la population. Je me demandais ce que vous en pensiez, vous, comme professeur.
Je vais vous dire, ça m'inquiète, parce que la stratégie identitaire, quoi qu'on en dise, elle repose sur un « nous » qui est celui de la majorité historique. Ce qui est bien légitime, mais en insistant sur l'importance de la majorité historique. Et cette insistance-là, qu'on le veuille ou non, elle tend à créer deux catégories de citoyens, ceux qui mènent le bal, la majorité, et les autres qui doivent s'intégrer le plus rapidement possible. Et l'appui considérable qui est apporté à la Charte des droits et libertés, elle ne repose pas toujours sur les beaux arguments qui sont apportés par les dirigeants. D'ailleurs, plus on est éloigné de l'endroit où se vit l'intégration des immigrants, c'est-à-dire surtout Montréal, plus on est favorable à la charte. Il me semble que c'est un mauvais signe. Ça donne...
Hérouville, par exemple?
Voilà, c'est le syndrome d'Hérouville. Ça donne l'impression que pour beaucoup de gens, leur appui à la charte tient à une sorte de gêne vis-à-vis de l'autre, à une sorte de refus de l'autre, de l'immigrant comme tel. Encore une fois, je pèse mes mots. Je dis pas que ça soit la façon dont on présente publiquement la charte, mais je pense qu'elle est appuyée par beaucoup de monde pour des raisons qui sont pas toujours très nobles dans l'ensemble du Québec. Il y a un autre facteur qui m'amène à être gêné vis-à-vis de la charte, c'est que la plupart des organisations, des organismes que je connais qui s'intéressent aux immigrants, qui favorisent leur intégration, sont ou très discrets vis-à-vis de la charte, ou la condamne tout à fait et la critique ne l'aime pas. Or, je me dis que ces gens-là connaissent mieux la situation, connaissent mieux les facteurs d'intégration que les autres. Il faut dire aussi au sujet de la charte que nous sommes d'accord qu'elle trouve un appui presque unanime dans la population si on ne considère que la proclamation de la laïcité comme telle, que la lutte à tout prosélytisme religieux dans l'espace public, que les balises aux accommodements raisonnables, le seul désaccord tient au symbole vestimentaire pour certaines catégories de personnes dans la fonction publique. Et là, ben, les gens qui travaillent auprès des immigrants, me dit-on, à l'heure actuelle, constatent que, par exemple, le voile islamique, puisqu'il faut le nommer, c'est de ça qu'il est question. Hein? Finalement, les désaccords vis-à-vis de la charte portent sur la femme musulmane qui porte un foulard islamique et qui est présente dans les travaux dans des hôpitaux ou dans l'enseignement. C'est ça qui est l'enjeu. Et les gens qui travaillent auprès des immigrants me disent que le voile islamique, il est porté plus que jamais à Montréal. Donc, comme certains l'ont dit, on obtient le résultat contraire de celui qu'on voudrait obtenir. Et ce à quoi on assiste, j'espère d'avoir tort, mais j'ai vu cela, c'est qu'on a braqué certains groupes d'immigrants au lieu de les inviter, de les amener, au lieu d'ouvrir un dialogue avec eux. Alors, ça ne m'apparaît pas de bon augure. Cependant, je dois constater avec grand plaisir qu'un nombre assez grand de personnes, surtout puisqu'il s'agit d'eux du monde musulman de Montréal, ont appuyé la charte. C'est pas la majorité, c'est sûr, les sondages le montrent. Et le Parti québécois a bien voulu aller chercher des personnes d'origine maghrébine pour être candidat à l'élection. Je trouve que c'est un bon signe. Il y a aussi un autre facteur dont je crois qu'on ne tient pas assez compte, c'est celui de notre environnement. On parle beaucoup de notre histoire, il est important de parler de notre histoire, il faut aussi parler de notre géographie. Nous ne sommes pas la France, bien que nous ayons des rapports privilégiés avec la France. Nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Amérique du Nord. Et ceci garde son importance. Si nous sommes les seuls, comme dit Jean Dorion, que je respecte beaucoup et dont j'épouse, comme vous le voyez, l'orientation.
Qui a écrit un livre sur le sujet.
Ouais. S'intitule « Inclure ». Il dit ceci, « Nous sommes déjà très différents du reste de l'Amérique du Nord. Pourquoi multiplier à souhait les différences ?» Les Canadiens de langue anglaise, je ne suis pas un apôtre du multiculturalisme à la canadienne pour différentes raisons. C'est une loi qui nous a été imposée pour beaucoup pour faire oublier notre culture québécoise. Et je trouve injuste d'ailleurs les accusations de ceux qui militent pour la charte quand ils disent que tous ceux qui sont contre la charte sont pour le multiculturalisme canadien. Ça n'est pas vrai. Il existe un modèle qui s'appelle l'interculturalisme, qui est basé sur le dialogue avec les communautés ethniques et qui est différent du multiculturalisme. Mais ceci dit, nous ne gagnons pas à concevoir l'intégration des immigrants d'une façon radicalement différente de ce qui se fait ailleurs en Amérique du Nord, du moins à mon avis.
On vient d'entendre l'exposé qu'a fait Louis Balthazar sur ses gênes ou sa réticence. Comment expliquez-vous cette attitude-là? Est-ce que c'est parce qu'on a plus une conception anglo-saxonne de la laïcité ou parce qu'on n'a peut-être pas habitué à avoir une conception stricte de la laïcité au Québec?
J'ai l'impression que, comme il le souligne très bien, il y a un consensus au Québec à l'endroit du principe même de la laïcité. On l'a vu, les débats qui ont cours actuellement ne portent pas sur un rejet. Il y a très peu de gens dans l'espace public qui vont exprimer leur réticence à l'endroit même du principe de la séparation entre l'Église et l'État, qui est le principe de la laïcité. Là où il y a divergence, et M. Balthazar a parfaitement raison, c'est sur l'application de l'interdit des signes religieux ostentatoires pour une catégorie professionnelle, les fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, on est vraiment sur une question de détail ici. Il semble souscrire au principe de la laïcité, mais il semble recourir également à certaines critiques ou réticences qui se rattachent davantage précisément au modèle du sécularisme libéral. Dans une conception républicaine, en général, on conçoit la société non pas comme un ensemble d'éléments disparates, une forme d'amalgame ou d'agrégat d'individus ou de regroupement de groupes communautaire, comme c'est le cas, par exemple, avec le multiculturalisme, mais bien comme un tout, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la société républicaine, il n'y a que des citoyens, point. Donc, de recourir à l'argument selon lequel une telle charte entraînerait une mise à l'écart de certains individus de la société, mais c'est donc recourir au schème, à la manière de concevoir la société, précisément comme un ensemble, un agrégat d'individus, ou comme j'en pourrais l'expression de Jean-François Lisée, un ensemble de nous, comme si le Québec était conçu d'ensemble de nous disparates, et ici, on en mettrait à l'écart avec une telle charte. Ben, en bon républicain, il n'y a qu'un seul nous, ce sont les Québécois. Ce qui explique pourquoi même certaines femmes qui pratiquent l'islam sont également favorables à une telle charte de la laïcité.
Mais comment se fait-il que ce n'est pas perçu automatiquement comme rassembleur? Parce que cette charte-là devrait être rassembleur, puisque on dit on met tout de côté notre point de vue religieux pour réussir à s'entendre, à avoir quelque chose de commun.
Ouais.
On met l'accent sur ce qu'il y a de commun plutôt que ce qui nous divise dans la société. Est-ce que c'est les effets du multiculturalisme qui sont rentrés dans les esprits et puis on est imbu de ça? Avec les chartes canadiennes des droits, les gens ont tendance à voir l'intervention de l'État comme menaçant.
Ouais. Ben, il est vrai que le multiculturalisme, même si les Québécois manifestent en général une assez forte réticence à l'endroit de ce modèle, il n'en demeure pas moins que ce modèle s'est imposé dans certains groupes, certaines classes intellectuelles au Québec, ça, il n'y a pas de doute. Notamment, bien sûr, je dirais à Montréal. Ce qui n'aide pas non plus l'acceptation d'un tel projet de charte vient avec le nom lui-même. Il ne s'agit pas ici d'y aller avec une charte strictement de la laïcité. Et je pense que le Parti québécois aurait gagné en rigueur intellectuelle, mais je pense qu'on aurait gagné en précision. Et là, je pense qu'on aurait mis de l'avant une charte davantage rassembleuse si on s'en était tenu à une charte de la laïcité. Alors que là, on est allé d'une charte des valeurs. Et là, c'est assez étonnant. Il est assez rare que dans une démocratie libérale, comme le Québec, qu'on constitutionnalise des valeurs, qu'on érige en loi, à portée constitutionnelle, des valeurs. Un principe politique comme la laïcité, certes, mais des valeurs, probablement pas. Donc, je pense qu'un certain nombre de réticences que certains vont manifester ou exprimer à l'endroit de la charte tient en partie à son appellation même de charte des valeurs. Et là, à ce moment-là, on se dit, ouais, mais si on n'est pas des mêmes valeurs que ceux qui souscrivent à cette charte-là, on n'est donc pas des Québécois. Je pense que ça explique une partie de la réticence.
J'aimerais revenir à votre ouvrage où vous parlez de la laïcité inclusive ou laïcité ouverte sur cette option. Vous écrivez, c'est d'ailleurs précisément pour assouplir le modèle de laïcité qu'il jugeait trop rigide que les commissaires Gérard Bouchard et Charles Taylor ont développé le concept de laïcité dite ouverte dans leur rapport en 2008. Principe qui figurait dans le rapport Proulx de 1999 sur la déconfessionnalisation des écoles publiques au Québec. Le concept de laïcité ouverte peut donc être perçu comme une tentative de permettre l'expression de la religion dans l'espace public, autrement dit, une manière de rapprocher le modèle républicain du sécularisme libéral. Donc, ce serait une attitude intermédiaire, si on peut dire.
C'est une attitude intermédiaire, effectivement, mais qui, en réalité, il y a des limites à vouloir rendre compatibles des modèles qu'ils ne le sont pas au départ. Et en ce sens, tous les efforts qui sont consentis par Gérard Bouchard et d'autres pour mettre de l'avant le principe de l'interculturalisme au Québec se sont soldés, jusqu'à présent, par un échec. Je ne crois pas que le modèle de l'interculturalisme, aujourd'hui, soit soutenu par une majorité de la population au Québec. Mais là, tient justement la raison de cette incapacité pour ce modèle de s'imposer, c'est parce que, précisément, il repose sur, en quelque sorte, une conception multiculturelle, ici, à tout le moins, libérale de la société, en lui ajoutant, en quelque sorte, une dimension plus républicaine, donc un mélange entre sécularisme libéral et républicanisme, mais qui ne colle pas vraiment, précisément, parce que ces deux modèles sont tellement opposés qu'il y a des limites à vouloir rendre compatibles, donc des modèles qui ne le sont pas dès le départ.
Alors, pouvez-vous nous parler de votre projet? La République québécoise, vous dites que c'est une idée suspecte, mais c'est une lecture qui est assez peu connue, en fait. Moi, j'ai appris beaucoup. Vous refaites toute l'histoire du Canada à travers un angle, une lecture assez particulière. On n'est pas familier à cette vision-là. Mais c'est surtout durant les années 1830 qu'on voit apparaître la dimension républicaine, par exemple, dans les discours de Papineau. Et je pense que c'est assez récent. Mis à part là, Circé Côté, c'est surtout Louis-Georges Harvey récemment, Yvan Lamonde, qui ont essayé de mettre en valeur cette dimension républicaine de Papineau, par exemple, chez Papineau.
Bien, c'est-à-dire que, curieusement, une des premières personnes à en parler, c'est Lord Durham, qui fait de l'ironie sur le projet de république de M. Papineau. C'est l'expression qu'il emploie dans le rapport de Durham.
Mais donc, pour s'en moquer.
Pour s'en moquer, mais lui, en tant que bon Whig, savait très bien de quoi il retournait. Et tout le rapport de Durham est aussi une théorie du pouvoir. On a tendance au Québec à lire le rapport de Durham comme un rapport qui cherche à régler les comptes aux Canadiens français. Bon. Il y a sans doute de ça dans le rapport, mais il y a beaucoup plus que ça. Et quand vous lisez attentivement, il expose vraiment une conception du pouvoir qui est très proche de ce que j'ai décrit tout à l'heure, comme le libéralisme à l'anglaise ou conservateur, peu importe, même si lui-même était dans un radical, considéré comme un radical à l'époque. Mais une des raisons probablement pour lesquelles on n'a pas été sensible aux républicanistes et patriotes, c'est que d'abord, leur langage a changé. Et on voit très bien qu'il y a quand même un changement dans son langage. Au début, Papineau, en fait, croyait, et d'autres que lui aussi le croyaient, qu'en étant de bons sujets anglais, il pourrait ainsi jouir de toutes les libertés que le régime britannique réserve aux Anglais. Donc, on espérait qu'on pourrait avoir un véritable parlement dans l'esprit britannique tel qu'on le percevait à l'époque. Mais, pour toutes sortes de raisons, en raison du refus de Londres de répondre aux demandes des patriotes, on va progressivement déchanter et cesser d'idéaliser le cadre britannique et on va se tourner vers l'exemple américain, qui est éclatant, qui était aussi assez bien connu. Papineau connaissait assez bien les constitutions des colonies et des États indépendants après 1783. Donc, il était au fait, finement au fait, de cette pratique républicaine américaine et ça paraît de plus en plus présent dans son langage, dans ses discours, dans ses références. Et ça va l'habiter toute sa vie parce qu'en fait, jusqu'à la fin, Papineau ne cessera d'utiliser ce langage républicain.
Est-ce qu'après l'échec de 37, on voit tout de suite que les hommes politiques deviennent de plus en plus conservateurs là, dans la deuxième moitié du 19e siècle et ils vont être
farouchement opposés à la pensée républicaine. Est-ce que c'est plus à cause de l'Église, du loyalisme britannique, cet acharnement contre l'esprit républicain?
Je dirais que c'est une combinaison de facteurs. L'Église, sans doute, a contribué à discréditer le républicanisme chez nous, mais seulement à partir de la défaite des Patriotes. Parce que avant, l'Église était certes puissante, mais pas aussi puissante qu'elle a été par la suite. Et en fait, les Patriotes, sur le plan sociologique, est un phénomène intéressant. Ça signalait le fait qu'il y avait au Québec, dans un cadre colonial très difficile, une petite élite laïque qui aspirait à créer, autour de la vallée du Saint-Laurent, un véritable État libre. Une expression qui apparaît beaucoup dans le langage républicain, tant en Europe que chez les Américains, « État libre ». Et ça apparaît dans certains textes des patriotes, cette expression. Donc, ils avaient cette ambition-là, et cette ambition était aussi le fruit du fait qu'il y avait, donc au Québec, une espèce d'élite laïque faite en grande partie de professions libérales, de quelques propriétaires terriens, petits commerçants, mais qui croyaient à l'excellence de la vie active et politique, plutôt qu'à la vie contemplative dans les ordres. L'Église est devenue puissante après 1840, et vous remarquerez qu'après 1840 se développe un discours au Québec qui, quant à moi, est encore très présent, qui va complètement noircir le politique. Le politique, c'est le mal. Le politique, c'est la faute, c'est ce qui a provoqué la chute de notre condition, etc., etc. Et c'est un langage qui, à mon avis, n'a pas tout à fait disparu, même du Québec contemporain. Donc, l'Église a joué un grand rôle dans le discrédit entourant le républicanisme en général, pas seulement le républicanisme des patriotes, mais même celui venant de France.
Mais c'est ça, la France, France révolutionnaire. Donc, le républicanisme est associé à la France révolutionnaire.
Oui, et beaucoup d'historiens, ont déjà fait des études là-dessus, ont montré comment dans les livres d'histoire utilisés dans les séminaires, les écoles dirigées par l'Église au Québec... On noircissait exagérément les révolutions françaises, puisqu'il y en a eu plusieurs. Et lorsque la Troisième République s'est installée en France, les journaux ultra-catholiques au Québec, ultramontains, avaient de cesse de pousser des cris d'orfraie, de protestation contre l'école de Jules Ferry, contre ceci, contre cela, etc. Donc, ça faisait cette hantise du républicanisme a été nourrie en bonne partie, mais pas uniquement. C'est ce que j'ai appelé le grand siècle ultramontain qui va de 1840 vers, disons, 1960. Mais il y a aussi d'autres éléments d'explication. L'autre élément d'explication, c'est cette conversion idéologique et sociologique des élites canadiennes françaises au libéralisme anglais. C'est-à-dire, donc, après la défaite des Patriotes, une bonne partie de l'élite canadienne française va changer son fusil d'épaule. D'ailleurs, plusieurs vont le faire dans leur propre existence. Georges-Étienne Cartier est un très bel exemple, La Fontaine, etc. Et vont donc puiser de plus en plus dans le libéralisme anglais. Et celui qui, à mon avis, a accompli cette conversion, c'est Wilfrid Laurier. Pensez à son grand discours aux catholiques de 1877. Écoutez, c'est vraiment un texte où là, on comprend tout. C'est-à-dire que dorénavant, le Canada français va complètement enterrer, du moins chez les élites, toute référence à ce qu'ils appelaient le libéralisme radical, celui des Français. On désignait par là donc le républicanisme français. On va enterrer donc le libéralisme radical européen pour lui préférer les grandes vertus du libéralisme à l'anglais. C'est ce qu'il dit en toutes lettres dans son grand discours. Et il va emporter avec lui toute une génération de Canadiens français qui vont donc... se réclamer de ce libéralisme. Donc, quand on voit M. Couillard dans un texte qu'il a fait paraître il y a quelques mois, où il fait la grande histoire du libéralisme et remonte jusqu'à Papineau, ben, il oublie de dire qu'en fait, il y a quand même une rupture entre le Papineau républicain et un Wilfrid Laurier tardif. Parce que Wilfrid Laurier, dans sa jeunesse, avait des propensions républicaines. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que nous l'avons mis dans notre anthologie sous le chapitre de la corruption. Mais le Wilfrid Laurier tardif est celui qui s'est converti au libéralisme anglais.
Si on revient à la création de l'Union fédérale en 1864, la Grande Coalition, on voit que le Canada est fondé par des grands hommes, mais très peu en lien avec la population. C'est vraiment un petit groupe qui pense la Constitution. Il n'y a pas de vote, même en 1867, on ne fait pas voter. La population, c'est quand même assez peu, c'est loin du républicanisme, ça. C'est aller à l'extrême.
Tout à fait.
La façon dont le Canada s'est constitué, c'est...
Et comme je vous l'ai dit, c'est un État d'abord fondé sur la conquête qui lui donne toute la légitimité pour exister. Ensuite, dans la tradition britannique, la souveraineté appartient aux parlementaires et aux représentants de la couronne. Et dans les faits, avant 1867, cette souveraineté légalement appartenait à Londres. Et Londres, dans sa grande générosité, a laissé les représentants des colonies se regrouper. Mais c'était des délégués des gouvernements coloniaux en place. On était très, très loin de ce que les Américains vont appeler la Convention. Convention dont va se réclamer sans cesse Papineau à partir des années 1830 jusqu'à la fin de ses jours. Et les Québécois ne savent pas c'est quoi une convention. Moi-même, j'ai dû l'expliquer dernièrement à mes étudiants quand je leur ai expliqué comment on a fondé les États-Unis. C'est une institution mise au point par les Américains, inspirée sans doute de quelques précédents anglais, mais que les Américains ont poussé jusqu'au bout en lui donnant un sens révolutionnaire et très démocratique. L'idée de la convention, c'est que lorsqu'un peuple veut changer de régime, se donner une constitution, il ne peut pas abandonner une tâche aussi importante, aussi grave, à ses représentants ordinaires. Donc, il faut un peu recréer ce que les philosophes anglais appellent l'état de nature, créer une espèce d'état antérieur à la création de la société. Mais comment faire une telle chose? Alors, le moyen que les Américains ont trouvé, c'est de créer une assemblée parallèle, temporaire, composée de gens spécialement élus, distincts des représentants ordinaires, qui vont se pencher sur la constitution à donner au pays ou au peuple. Donc, cette institution est à la base de beaucoup de constitutions des États, est à la base de la ratification de la constitution de Philadelphie en 1787. Qu'est-ce qu'on fait après 1787? Dans chaque des États, il y en avait 13, ont fait élire une convention et les représentants de cette convention ratifient ou pas la Constitution. Donc, c'était la méthode américaine. Alors, on n'a pas connu une telle chose au Canada et on n'a pas non plus connu de référendum. On n'a même pas fait d'élection générale sur la question des résolutions de Québec de 1764 qu'on s'apprête à célébrer, semble-t-il, à grand bruit cette année.
Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter pour une pause. On va reprendre, évidemment, un peu plus tard pour aborder toute la question d'une constitution québécoise. Alors, à bientôt.
À bientôt.
Ce soir, nous recevions Danick Parenteau qui vient de faire paraître chez Fides l'ouvrage « Précis républicain à l'usage des Québécois » et Marc Chevrier, juriste et professeur en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, qui a fait paraître en 2012 chez Boréal l'ouvrage « La République québécoise, hommage à une idée suspecte. Ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistoriquedemontréal.org en un mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel qui vous souhaite une bonne fin de semaine et vous invite samedi prochain, 18h, sur les ondes de Radio Ville-Marie, à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.